On est toujours sur les abords de ce gigantesque stade, tout de béton, avec tout un tas d'arbres et de bacs à fleurs pour faire un côté naturel. Et là, pendant ce temps-là, je vois des touristes là, qui viennent passer l'œil entre les barrières pour essayer de voir à l'intérieur à quoi ressemble le chantier. Vous sortez un énorme tableau. C'est une carte, une photographie aérienne du site olympique.
Ce que cette carte montre, c'est le site avant tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a déplacé pour construire le nouveau stade olympique. Et comme vous voyez, c'est vraiment énorme. Les gens qui critiquent le stade, en fait, ils disent que ça ressemble à un gros Big Mac.
C'est pas faux en plus, parce qu'avec toutes ces planches extérieures là, qui sont posées, cette forme sphérique, et puis avec les petites jardinières qui ressemblent un peu à la salade qui dépasse d'un Big Mac, l'image est assez juste, oui.
Grillé, brûlé par le soleil et la sécheresse.
Je reviens du monde d'avant.
Imaginez le monde d'après.
Journal de bord.
The whole place is burning.
Épisode 9. Japon.
Tokyo 2020.
Les JO de Tokyo 2020 n'auront pas lieu. Tant mieux.
D'un monde à l'autre.
Vivent-ils sur France Inter.
Avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Let's go!
Bonjour à toutes et à tous. Imaginez qu'en ce moment même, s'il n'y avait pas eu ce foutu pangolin, c'est-à-dire dans le monde d'avant d'où je viens, vous seriez très probablement devant votre télé à regarder des Jeux Olympiques qui promettaient de vous en mettre plein la vue. La grande fête du sport et des superlatifs qui revient tous les 4 ans, sauf en cas de guerre ou de pandémie donc. Et une des raisons qui nous a poussé à passer par Tokyo dans notre tour du monde d'avant, après les coups de chaud au Groenland et en Australie, c'est justement l'insistance des organisateurs à nous répéter combien ces Jeux 2020 allaient être écolo. Zéro carbone, zéro déchet, des arbres dans la ville, et la ville au milieu des arbres, c'est écrit sur tous leurs communiqués. En voilà une histoire positive, me diriez-vous, avec des médailles en or, de téléphones recyclés, des podiums en emballage eux aussi recyclés, et gracieusement offert par la multinationale Procter & Gamble. Du rêve, je vous dis. Et la Sustainability Team, l'équipe durabilité des Jeux, avait même trouvé un moment à nous consacrer pour nous montrer combien les JO de Tokyo allaient être un exemple pour le monde d'après. Sauf que quand on gratte un peu, c'est peut-être pas si mal que les Jeux n'aient pas lieu. Car sous les slogans « Going Green », les JO reportés de Tokyo ne vont sans doute pas être aussi verts que ça. Alors jusqu'à 18h sur France Inter, direction Tokyo, je reviens du monde d'avant avec des Japonais qui ne veulent pas de ces jeux-là.
I'm not afraid to
Le comité international olympique a l'honneur d'annoncer que les 32e Jeux olympiques en 2020 auront lieu à
Tokyo.
Explosion de joie des habitants de la ville de Tokyo, désignée hier soir capitale olympique pour les Jeux de 2020.
The coronavirus pandemic that's caused chaos the world over.
Les Jeux olympiques de Tokyo sont-ils menacés par l'épidémie de coronavirus?
Le CIO a longtemps retardé sa décision dans l'espoir d'une amélioration de la crise sanitaire.
Mais pour les officiels japonais, il n'y a pour l'instant aucune menace sur ces Jeux qu'ils veulent sous de la relance pour l'économie du pays.
Cela semblait inéluctable. C'est désormais officiel.
Décision inédite en temps de paix en réaction à la crise sanitaire du coronavirus.
Même le plus grand événement sportif mondial n'a pas résisté au coronavirus.
Les Jeux olympiques et paralympiques 2020 sont reportés. Information confirmée par le premier ministre japonais.
J'ai proposé de reporter les Jeux olympiques d'environ un an.
Tokyo 2020 will be held in 2021.
Ce sera donc du 23 juillet au 8 août 2021.
Les JO n'auront pas lieu. Tant mieux.
Donc, je suis Tristan Lavier, je suis en charge de la communication internationale du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.
Et bon, j'étais le premier et seul français pendant un bout de temps.
Comment s'appelle le quartier ici ?
Là, on est dans le jardin extérieur de Meiji, qui est un poumon vert très calme, où le stade des Jeux de 1964 a été construit. Et sur ce même emplacement, on a construit le stade des Jeux Olympiques de 2020.
Et donc, il n'est pas encore ouvert au public. Il y a une barrière assez simple tout autour. Mais on voit flambant neuf, derrière une rangée d'arbres qui sont aussi flambant neufs.
Oui, y a 47 000 arbres et arbustes qui ont été plantés à la fois autour du stade, mais aussi dans le stade. L'architecte Kengo Kuma, qui est assez célèbre pour vouloir toujours travailler avec le bois, a vraiment voulu en faire un arbre au milieu de la forêt, il a dit. Les coursives sont entièrement en bois.
C'est comme des planches fixées à l'extérieur.
C'est pas le seul site des Jeux Olympiques de 2020 qui insiste beaucoup sur le bois. Notre site de gymnastique, par exemple, est quasiment intégralement en bois et c'est un des plus gros toits en bois dans le monde. Mais aussi, derrière, on essaye d'intégrer tout un tas de technologies pour limiter l'impact environnemental. Donc, le stade devant lequel on est, par exemple, a des panneaux solaires, a également des endroits pour récupérer l'eau de pluie qui permettra d'arroser ces 47 000 arbres qui ont été plantés, mais également aussi dans sa construction pour limiter des besoins énergétiques. Il y a des aérations juste sous le toit qui permettent de créer un courant d'air qui va venir rafraîchir les tribunes naturellement.
On sait que c'est le grand rendez-vous des journalistes sportifs et de la performance. Et cette communication qui est faite délibérément sur un axe environnemental, sustainability, développement durable et écologique.
Les Jeux Olympiques, c'est plus qu'un événement sportif. Quand les Jeux Olympiques et Paralympiques viennent dans votre ville, il n'y a pas un seul endroit qui ne sera pas touché d'une manière ou d'une autre. Donc ça fait partie de l'histoire des Jeux et de la narration, de raconter comment ces Jeux ont été mis en place, quelle stratégie on a choisi pour construire tel stade à tel endroit, pourquoi on a choisi de répondre à telle problématique, parce qu'à ce moment de la société c'était le cas. Et c'est intéressant de regarder l'histoire des Jeux Olympiques, c'est très lié finalement à l'histoire du XXe siècle, en fonction des villes, en fonction des pays.
Que ce soit à Berlin, à Moscou ou à Los Angeles, par exemple.
Pour les Jeux, on va utiliser des symboles. On vise à donner une impulsion qui, elle, pourra avoir des retombées pendant 10, 20, 30, 40 ans, ce qu'on appelle l'héritage. Et quels sont les défis qui se présentent à nos sociétés à l'heure actuelle ? Environnemental. Et encore une fois, on va faire des Jeux avec 100% d'électricité provenant d'énergie renouvelable. On va aussi avoir beaucoup de choses liées à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un carburant qui ne produit pas de CO2 pour répondre aux challenges qui peuvent se présenter à nous.
Tokyo, choix symbolique donc, mais aussi économique.
Les dirigeants des prochains Jeux clament déjà qu'ils seront les plus novateurs de l'histoire.
Car le maître mot de ces JO, c'est le recyclage.
Les uniformes des athlètes, les podiums, toutes les médailles seront conçues à partir de matériaux recyclés à la suite de dons des Japonais.
Going green.
Be together as one.
Tokyo veut faire de ces JO 2020 un modèle d'écologie.
Puzzling future begins.
À la mairie de Tokyo, les habitants viennent déposer leurs vieux téléphones ou appareils électroniques. L'or, l'argent et le bronze qui se trouvent à l'intérieur permettront de fabriquer des médailles.
Je m'appelle Yuki Arata, je fais partie de la section durabilité du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Le premier projet, c'est les médailles. Les ressources pour faire ces médailles ont été prises d'ordinateurs, de smartphones et d'objets collectés de la part de la population.
Et juste à côté, je vois une petite boîte. Alors là, c'est écrit exclusivement en japonais, mais je vois pas. Mais je vois le symbole d'un smartphone, d'un téléphone, d'un iPhone. Combien de médailles vous allez faire et quelle quantité d'or et d'argent il va nous falloir ?
On va produire 5000 médailles d'or, d'argent et de bronze. Ça peut paraître étonnant, mais la quantité de ces métaux-là qui sont dans ces produits électroniques, comme les smartphones, est plus importante dans les produits électroniques que dans les mines d'or et d'argent du monde entier. Alors pour l'or, ça fait environ 30 kilos. Pour l'argent, 4100 kilos, et pour le bronze, 2700 kilos, et on a déjà atteint nos objectifs.
Eh ben, et ça fait combien d'iPhones tout ça?
Pour
être franc, je ne peux pas vraiment vous répondre, ça fait vraiment beaucoup, et il n'y a pas que des smartphones, il y a des ordinateurs et d'autres produits électroniques, mais le fait est que beaucoup de gens ont contribué à ce projet. Mais dites-moi, c'est un super business plan pour récupérer comme ça gratuitement 30 kilos d'or, et les citoyens japonais ont donné leur or là. Ils n'ont eu aucune contrepartie financière au fait de se donner son vieux téléphone portable ou son vieil ordinateur.
Il
y a même des gens de Paris qui ont participé, dont notamment la maire Anne Hidalgo.
Be better together for the planet and the people.
The 2020 Olympics are going green.
Cette façade n'est qu'une supercherie. On a tendance à les faire dissimuler la réalité que engager vraiment un effort au niveau réel de l'environnement.
Je vous avoue, je commençais à baisser la garde. Après les glaciers qui fondent et l'Amazonie qui brûle, entendre à Tokyo ces messages écolo à gogo, zéro carbone, zéro déchet, j'avais envie d'y croire, moi, à ces JO verts qu'on nous promettait pour cet été, qui allaient nous réconcilier avec une fête du sport si souvent défigurée. Jusqu'à ce que j'entende cette voix que vous venez d'entendre, celle de Satoshi Ukai, philosophe tokyoïte tellement francophone qu'il est le traducteur de Jacques Derrida. Et cette voix malicieuse et engagée m'a assez vite réveillé face au beau discours des promoteurs des Jeux. Surtout qu'il a insisté pour qu'on rencontre un de ses comparses pour entendre un autre son de cloche. Présentez-nous le monsieur qui est en face de nous avec son livre qui représente sur la couverture un ouvrier de chantier qui porte sur une brouette les 5 anneaux olympiques.
Monsieur Gentaro Taniguchi est un grand journaliste du sport qui travaille sur ce problème depuis déjà plusieurs décennies. Et puis aussi, Monsieur Taniguchi était un ancien athlète. Il aime beaucoup le sport, mais il déteste les Jeux Olympiques.
Vous me dites que vous êtes journaliste sportif et vous êtes contre les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un oxymore ça? Est-ce que c'est pas une contradiction dans les termes?
Selon lui, ce n'est pas le cas. Dans toute son histoire, l'olympisme a suscité beaucoup de problèmes politiques, culturels, sociaux, économiques. Donc, pour être un journaliste du sport digne de ce nom, il faut essayer de ne pas perdre de vue sur tous ces problèmes.
Ça veut dire que vous mettez la barre très haut? Parce que moi, quand j'entends les commentaires sportifs sur les Jeux Olympiques, c'est toujours la devise de Coubertin, plus haut, plus loin, plus fort. Et puis c'est tout.
L'olympisme n'est pas que cette devise coubertinienne, mais la prétention pacifiste de l'olympisme qui a beaucoup contribué à répandre cette fête sportive dans le monde entier. Est-ce que c'était vraiment le cas?
En 1980,
au moment des Jeux à Moscou, donc c'était en pleine la guerre froide, mais on avait l'espoir de voir le monde se réconcilier grâce à cette tenue. de l'Olympisme à Moscou. Mais ce qui s'est passé était tout à fait le contraire. Je crois que c'est à ce moment-là que le pacifisme olympique est mort.
C'est quand les États-Unis ont boycotté les Jeux de Moscou.
Voilà.
Et en répartie, les Soviétiques, à l'époque, ont boycotté ceux de Los Angeles en 84.
Exactement.
Et ça, c'est la fin du pacifisme. C'est le moment où la politique devient le moteur principal de ces Jeux. Et c'est ce que vous racontez dans votre livre.
Ça s'appelle « Olympique no owari no hajimari ». En français, « Le début de la fin de l'olympisme ». Les Jeux olympiques en 1984 à Los Angeles étaient aussi un tournant décisif de l'olympisme. Ces Jeux olympiques ont été financés par les entreprises et donc c'est le début retentissant de la commercialisation des Jeux olympiques.
C'était les Jeux Coca-Cola.
Oui, c'est exact. C'était le début d'un processus qui aboutit à la situation actuelle.
Vous dites que les Jeux Olympiques se sont politisés à partir des années 80, et puis après ils se sont marchandisés, toujours davantage. Mais alors là, vous devriez être content, parce que l'orientation politique des Jeux de Tokyo, c'est écologie, c'est l'environnement. Donc tout va bien. Vous n'avez pas l'air convaincu.
Contrairement à ce que vous dites, les Jeux Olympiques à Tokyo devraient être le début de la fin de l'olympisme. Ils montrent tous les signes de la décadence de cette entreprise internationale. Et maintenant, nous devons nous poser la question pour qui le sport existe, à quel but il faut organiser les événements sportifs. Non seulement les Jeux Olympiques, mais d'abord le sport lui-même est en train de connaître une grande crise à cause de la commercialisation, l'excès des compétitions, le nationalisme et le capitalisme, etc. CIO est soumis à la pression de l'argent. Comme ça, il détruit l'idéal olympique censé être étranger au monde d'argent.
Sur France Inter.
Alors pour l'instant, on n'entend pas les hurrahs de la foule, on n'entend pas la clameur du public, on entend un peu de circulation et quelques corbeaux. Mais il y a un stade de baseball à 100 mètres, un stade de rugby à 200 mètres. Et là, le nouveau lieu Instagram du moment à Tokyo, des anneaux olympiques de 2 à 3 mètres, où tout le monde vient se prendre en photo avec la vue du stade derrière.
Ouais, c'est ce que font les deux dames qui sont devant nous, là, qui se passent l'appareil.
Oui, tu vois. Vous voulez qu'on vous prenne en photo toutes les deux, mesdames? Ah, voilà, parce qu'elles se sont prises en photo l'une après l'autre, alors peut-être qu'elles ont envie de se prendre en photo. Tease. Voilà. Ah oui, là, on voit les anneaux olympiques, un bâtiment, du musée des Jeux Olympiques japonais. Et là, ce qu'on entend, c'est des jeunes écoliers japonais avec leur joli uniforme qui s'amusent sur la pelouse.
Il va y avoir un spot sur Tokyo et le Japon pendant 2 mois, comme jamais dans l'histoire du Japon.
Les Jeux sont toujours le signe d'une époque. C'est toujours un concentré de toutes les préoccupations d'une partie de l'humanité à ce moment-là. Préoccupations politiques, économiques, parce que on sait maintenant que c'est devenu une cash machine colossale. Et cette année, un des leviers politiques, c'est plus tellement la guerre ou la supériorité de l'économie japonaise, mais c'est la préparation aux défis environnementaux et climatiques. Ou est-ce que c'est juste un argument commercial pour faire un peu de greenwashing et que c'est des thèmes à la mode en ce moment?
Non, pas du tout. À Tokyo, ils cherchent un héritage plus soft, plus basé aux valeurs, et qui pourrait aussi permettre au pays de sortir de à peu près 25 ans de stagnation, on va dire, à peu près, depuis l'éclatement de la bulle dans les années 90. Pour Tokyo 2020, l'hydrogène sera utilisé pour les torches olympiques pendant le relais de la flamme et aussi pour une flotte de 500 véhicules, Toyota, qui est le sponsor olympique.
To realize a hydrogen society that will shape the future 100 and 200 years from now, Toyota is working towards the goal of an Olympic and Paralympic Games for 2020 and beyond.
Le gouvernement japonais a dans l'idée aussi d'utiliser la zone de Fukushima comme une capitale de cette nouvelle énergie, l'hydrogène, en y créant une usine qui va créer l'hydrogène qu'on utilisera pendant les Jeux Olympiques et qui créera cet hydrogène à base d'énergie renouvelable. Donc le but de tout ça, c'est de réduire l'empreinte carbone des Jeux, mais également du Japon dans les décennies à venir.
C'est là on arrive à deux symboles qui se télescopent. Les Jeux écolos qui marchent avec une flamme qui brûle à l'hydrogène, c'est-à-dire qui fait de la vapeur d'eau. Et l'autre symbole, c'est Fukushima, la catastrophe nucléaire et les radiations, et une zone qui est encore aujourd'hui inaccessible, et un chantier qui va s'étendre sur plusieurs décennies et plusieurs dizaines de milliards d'euros de réparation.
Déjà, Fukushima, il y a plusieurs choses. C'est la préfecture de Fukushima, la ville de Fukushima, ou la centrale tristement célèbre de Fukushima. À l'heure actuelle, dans la préfecture de Fukushima, les radiations ne sont pas plus élevées que dans d'autres pays et capitales du monde. C'est similaire à Paris. Et le gouvernement japonais a été très transparent là-dessus. Il y a des relevés, il y a aussi des ONG qui font des relevés. Vous pouvez trouver les évolutions au jour le jour. On va accueillir ça 9 ans après. Ça a été un drame, le séisme suivi du tsunami, suivi de cet accident, qui ont impacté des dizaines de milliers de personnes. Il y a 20 000 morts et disparus dans la catastrophe du tsunami. Donc c'est très important. Cependant, la vie a repris dans cette préfecture. À l'heure actuelle, 97% de la préfecture est habitable, est revenue. Donc cette fameuse zone d'exclusion dont on a beaucoup parlé en 2011 et a été réduite à peau de chagrin désormais. Donc pendant les Jeux, le baseball et les équipes japonaises masculines de baseball et féminines de softball joueront leur premier match à Fukushima, la ville de Fukushima. Ensuite, le départ du relais de la flamme olympique sera donné dans la préfecture de Fukushima, dans une structure qu'on appelle J-Village, réquisitionnée et utilisée comme endroit pour loger les personnes qui travaillaient au démantèlement de la centrale. L'année dernière, le site a été redonné à la communauté sportive japonaise, les équipes du Japon s'y sont de nouveau entraînées, et c'est de là que partira le relais de la flamme olympique le 26 mars 2020.
Les 10 000 torches qui seront utilisées pour porter la flamme seront fabriquées à partir de pièces d'aluminium recyclées provenant des logements temporaires de la préfecture de Fukushima. Le parcours de la flamme aura pour thème l'espoir éclaire notre chemin et traversera donc trois régions touchées par le tremblement de terre de 2011, Fukushima donc, mais aussi Iwate et Miyagi.
Alors vous savez, il y a toujours des râleurs, toujours des pas contents, ceux qui disent non au JO, c'est une opération de com' pour effacer la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là ?
On ne peut pas convaincre tout le monde. Au Japon, on a de la chance, ils sont assez peu nombreux, on va dire. On n'essaye pas de cacher, au contraire. En accueillant 25 000 journalistes accrédités, en gardant pendant 7 ans un focus sur la préparation de Tokyo, enfin, le gouvernement japonais a été obligé d'être transparent. Est-ce que France Inter serait ici s'il n'y avait pas les Jeux Olympiques ? Est-ce qu'on parlerait sur les ondes françaises de Fukushima, de la reconstruction ? S'il n'y avait pas les Jeux Olympiques et Paralympiques dans un peu moins de 2 mois.
Je reviens du monde d'avant. Guy Ventil sur France Inter.
En allant voir comment les JO de Tokyo qu'on nous promettait pour cet été allaient être verts et écolos, on comprend donc à quel point ils sont intimement liés à la catastrophe de Fukushima. Les autorités japonaises voulaient en faire une occasion de clamer haut et fort un message simple et clair. L'accident nucléaire, c'est du passé. Et ils comptaient bien, 9 ans après, tourner la page sur cet encombrant symbole du monde d'avant. Alors on ira demain dimanche voir à Fukushima ce qu'il en est vraiment. Mais puisqu'on est à Tokyo, on retrouve le philosophe Satoshi Ukai et son regard engagé qui, après nous avoir présenté un journaliste sportif anti-JO, veut nous emmener à la rencontre d'autres compatriotes qui ne veulent pas non plus jouer à ces jeux-là.
Ici, c'est Nerima, et donc la station de métro s'appelle Toshimae.
Et là, on passe devant une affiche d'un film devant le cinéma qui s'appelle Fukushima 50.
Ah là là.
C'est les 50 de Fukushima qui sont allés à la centrale, non ?
C'est ça, voilà. Donc ils sont censés s'être dévoués pour sauver le Japon du cataclysme. C'est une continuation de l'héroïsation des employés de Fukushima et qui faisait déjà l'objet d'un éloge un peu de tout de l'époque. Non.
Le slangorn en haut, les anonymes qui ont continué de rester à Fukushima Daiichi, Fukushima 50, les 50 de Fukushima.
Fukushima 50.
C'est parce que c'est un film qu'on peut en parler, une histoire de vérité.
Voilà, 9 ans après, Banzai.
Il faut le voir, hein. Mais pourquoi on est invité à découvrir ce film pour comprendre ce qui s'est passé à Fukushima ? Bon, ça, c'est quand même, je me pose cette question-là.
Mais en fait, c'est pas vraiment pour ça qu'on vous retrouve dans ce quartier de Tokyo, Satoshi Okai.
C'est ça, voilà. Donc ce soir, il y a un meeting pour la création d'une nouvelle instance militante contre les Jeux Olympiques de Tokyo.
Contre les Jeux Olympiques ?
Voilà.
Mais moi, je t'entendais, je comprends pas, parce que... On a fait la visite du peu qui était visible des infrastructures. Ces merveilleuses installations, ces formidables Jeux Olympiques à venir qui seront zéro carbone, zéro déchet, la nature dans la ville et la ville dans la nature, des Jeux écolo. Et alors vous, Satoshi Okai, vous me dites non.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que cette tenue des Jeux Olympiques à Tokyo est pour moi une grande opération de diversion. Pour détourner le regard de la population, de la réalité des accidents nucléaires à Fukushima, qui sont très loin d'être réglés. Si on parle de l'écologie, il faut s'attaquer à ça, en priorité.
C'est ça, c'est un discours écologique qui permet de masquer une réalité qui est tout autre. C'est-à-dire qu'on en fait, on n'est pas loin de ce qu'on appelle en anglais le greenwashing.
C'est ça, voilà. Greenwashing, et puis, dans ce contexte-là, on invente beaucoup de mots nouveaux qui est très proche de ce que George Orwell a appelé Newspeak.
La novlangue de 1984.
C'est tout à fait. Ces Jeux Olympiques ont été programmés après le grand tremblement de terre qui est survenu mars 2011. Donc ils sont présentés comme les Jeux Olympiques de reconstruction nationale.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a salué ce nouveau stade olympique national.
L'année prochaine, nous devons faire des Jeux de Tokyo, une occasion de partager nos rêves et nos espoirs, de créer un héritage fier, de montrer la puissance et la force du Japon aux yeux du monde et d'ouvrir le pays sur le futur.
Hi. Konnichiwa.
Notre camarade Miyazaki-san. Konnichiwa.
Voilà, on commence à retrouver le soir comme ça dans les faubourgs de Tokyo des conjurés contre les Jeux Olympiques. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, des Japonais qui s'élèvent contre ces grandes fêtes. Alors on rentre dans un petit centre culturel.
Notre camarade a trouvé déjà 7 policiers.
Des policiers ?
Oui, 7 policiers.
Alors là, au fond du couloir de cette espèce de centre culturel, il y a un petit panneau qui dit « Rendez-vous après le yoga », qui était de 6h30 à 9h30. Et là, on voit des messieurs et des dames qui arrivent, qui payent leurs cotisations, qui remplissent un petit formulaire à l'entrée. Donc là, on est en train d'arriver dans un rendez-vous contre les JO.
C'est ça, congelé. C'est ça, exactement.
Et alors là, c'est quoi, là ?
C'est un torchieux. Anti-olympique.
Une torche anti-olympique. C'est très drôle, parce qu'en fait, c'est un débouchiotte décoré avec des rubans.
Donc, il y a ce symbole qui circule parmi les villes où il y a un mouvement anti-olympique. Madame Yoshida qui est membre du comité anti-olympique. C'est un symbole de la résistance internationale contre les Jeux olympiques qui s'est créé à Vancouver en 2010.
Vancouver, から London, Sochi, Rio.
C'est passé par Londres, Sochi, Rio.
Pyeongchang, から Tokyo, に引き継がれました.
En 2018, à Pyeongchang, en Corée. Et ensuite, ici, à Tokyo.
Il y a la flamme olympique qui circule, et ça, c'est l'anti-flamme, anti-olympique. Mais pourtant, moi, on m'a dit que ça allait être les jeux les plus écologiques de l'histoire. Et là, vous rigolez, là, je vois.
Donc, c'est un mensonge total, parce que dans la construction du nouveau stade de Tokyo, et on a déjà largement détruit une forêt tropicale en Malaisie et a apporté beaucoup de dégâts contre les droits de l'homme de la population locale.
Et donc, vous voulez vous battre pour que ces jeux n'aient pas lieu?
Oui, c'est exact.
We are united by emotion.
Trois ans après le début des travaux, le stade qui accueillera la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo a été inauguré le week-end dernier. D'une capacité de 68 000 places, il a coûté plus d'1,2 milliard d'euros.
Tokyo 2020.
Je m'appelle Toyoyuki Kawakami
Rainforest Action Network.
Et je travaille pour le Rainforest Action Network.
Rainforest Action Network, ça veut dire le réseau d'action pour la forêt pluviale. Vous devez être ravi que les Jeux Olympiques soient à ce point placés sous le signe de l'écologie, du développement durable et de la protection de la forêt.
Ce serait bien si c'était vrai, mais malheureusement, on doit dire qu'ils sont vraiment loin du compte. D'un côté, il y a ce qu'ils disent, et puis de l'autre côté, il y a ce qu'ils font, et entre les deux, un grand fossé. Nous nous sommes rendus compte que pour la construction de ce stade, le bois qui est utilisé pour former les caissons dans lesquels on couvre le béton, ce bois provient de forêts tropicales où vivent notamment les orang-outans, et ce bois est aussi le produit de la déforestation.
Il vient d'où ce bois alors ?
Ce bois vient d'Indonésie, de Bornéo. Ce bois provient de forêts qui sont désignées par le gouvernement indonésien lui-même comme l'habitat des forêts particulièrement riches, denses, dans lesquelles vivent des orang-outans. Et ce bois provient donc de la déforestation qui a pour but de planter à la place de la forêt des palmiers à huile.
Quelle quantité de bois ou quelle surface de forêt a été utilisée ?
Le calcul donne le chiffre d'à peu près 6900 mètres cubes de bois tropical pour la construction du stade olympique.
Et ça, c'est en faisant des enquêtes sur le terrain que vous avez réussi avec Rainforest Action Network. Je rappelle, c'est une ONG internationale basée aux États-Unis, mais aussi des ONG indonésiennes, malaisiennes, que vous avez réussi à recouper ces informations dans un rapport qui a été publié en novembre 2018, qui s'appelait « Les promesses trahies ». Alors, quelle a été la réponse du comité d'organisation des JO de Tokyo ?
Il y a deux aspects qu'on a abordés dans ce rapport. Un, c'était l'aspect de l'habitat des orang-outans. Mais il y avait le second aspect qui est celui des tensions sociales générées par la déforestation, c'est-à-dire les populations qui souffrent des conséquences de la déforestation.
Ils ont fait amende honorable, les constructeurs du stade olympique ?
Les autorités ont bien reçu nos plaintes, mais depuis un an et demi environ s'est écoulé et on n'a pas de réponse concrète concernant l'alarme qu'on a lancée. Il n'y a eu aucune action sur la base de notre rapport. Ils se contentent de dire qu'ils prennent en considération les objections que nous avons émises. Au départ, je trouvais magnifique justement qu'on mette en avant la durabilité des Jeux et je me disais que c'était une occasion unique de changer le Japon. Et le fait qu'on n'ait pas saisi cette opportunité, c'est vraiment désolant.
Tokyo veut faire de ses JO 2020 un modèle d'écologie.
Tokyo 2020.
2020.
Procter & Gamble.
Ces marques vous disent très certainement quelque chose. Des produits d'entretien du linge, tous fabriqués pour le groupe Procter & Gamble.
Procter & Gamble, le plus gros annonceur du monde. 65 marques au total.
PG, sponsor officiel des mamans.
Je rappelle, Madame Arata, que vous êtes responsable de développement durable et de l'empreinte écologique des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Un des autres symboles, c'est de faire des podiums olympiques en bouteilles de shampoing. Après les médailles en déchets électroniques, c'est les podiums en déchets plastiques.
Un de nos partenaires des Jeux Olympiques, c'est Procter & Gamble. P&G, Procter & Gamble, partage avec nous cette ambition du plastique recyclé et ils participent avec nous à ce projet de sourcer du plastique à partir de bouteilles, de shampoing et de savon et d'autres produits.
C'est ça, les boîtes qu'on a dans tous les petits supermarchés. On peut aller jeter ses déchets. En plus, on se débarrasse de ses déchets par la même occasion. On pose devant la petite boîte P&G, Procter & Gamble, et on voit effectivement, on a toutes les marques. Des boîtes de lessive, de savon, du détergent.
Nous avons donc mis en place un système de récupération des bouteilles en plastique, notamment dans une grande chaîne de supermarchés qui s'appelle Aeon, dans 2000 magasins, et aussi dans des écoles.
Est-ce qu'on peut mettre des produits des concurrents de Procter & Gamble ?
Aucun problème. On est ouvert à tout.
The 2020 Olympics are going green.
Going green.
Be together as one. This is where a dazzling future begins.
Je reviens du monde d'avant. Épisode 9. Les JO n'auront pas lieu, tant mieux, sur France Inter.
L'objectif de ce meeting est de réfléchir comment célébrer les Jeux Olympiques.
Prépare la contre-attaque.
C'est ça, voilà, exactement. Et Toshiro Miyazaki va prendre la parole et pour éclairer un peu les points.
Il brandit une petite brochure, les 20 points contre Tokyo 2020.
Normalement, les Olympiques sont considérés comme une fête, mais normalement, ici, on ne conteste pas la fête. Il faut un changement de perspective qui consiste à renverser la célébration en désastre.
Il n'y a pas à dire, là, on est tombé chez des dangereux contestataires qui refusent l'euphorie collective qu'est cette fête sportive.
C'est ça, voilà, tout à fait.
Pour des raisons politiques, pour des raisons économiques et pour des raisons environnementales.
Exactement.
Miyazaki-san, la conférence est finie. Vous reprenez votre flambeau qui est en fait un balai de chiottes qui est votre torche olympique. Et alors, j'ai votre carte, monsieur Miyazaki, et il y a écrit Toshio Miyazaki, ouais, ouais. Non merci au désastre olympique. Parce que je vous avais listé une vingtaine de raisons contre les Jeux de 2020.
Tout d'abord parce que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui détruit l'environnement. Pour faire ces Jeux Olympiques, on a construit un grand stade à un endroit où il y avait des parcs et dont on a expulsé les gens qui habitaient dans des immeubles. Une autre raison, c'est évidemment le coût de ces jeux et la quantité énorme d'argent qui vient de l'argent des contribuables.
Plus de 6 milliards de dollars de fonds privés et plus de 6 milliards de dollars de fonds publics.
En 2013, lorsque Tokyo a remporté la mise, eh bien les JO devaient coûter une douzaine de milliards de dollars. Au final, les Jeux Olympiques d'été de 2020 devraient coûter la bagatelle de 25 milliards de dollars, c'est-à-dire plus du double du budget de départ. Et le pire, eh bien, se trouve à la ligne recettes supplémentaires, parce qu'on y trouve le contribuable japonais, évidemment, à hauteur de 80% des sommes engagées.
Et là, vous avez bon espoir de pouvoir contrarier la tenue de ces Jeux ?
On est convaincu qu'on peut avoir un impact et c'est la raison pour laquelle on fait ces activités et pour laquelle on demande au maximum de gens de se joindre à nous. Une autre chose qu'on aimerait dire, évidemment, c'est que si on va dépenser de l'argent pour les Jeux Olympiques, alors dépensons aussi de l'argent pour la reconstruction de Fukushima. On a des actions tous les 24 du mois, le soir, de 7h à 8h.
C'est des forcenés, quoi. Jusqu'aux boutistes. Eh ben, on peut vous souhaiter bon courage et bonne mobilisation, alors. La salle, les chaises, tout a été replié consciencieusement à vitesse grand V. Il n'y a plus un papier qui traîne. On sort de la petite salle. C'est la nuit. C'est tout tranquille.
Donc on est arrivé à la gare.
Bah, génial.
Je reviens du monde d'avant. Sur France Inter. À Tokyo, sans les JO, avec ceux qui ne voulaient pas jouer ces jeux-là.
Alors on continue notre balade autour de l'endroit qui va tirer les caméras, les dizaines de milliers de journalistes, les dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier qui vont suivre cette grande messe sportive, consumériste aussi, des Jeux Olympiques. Sauf que maintenant, on est toujours sur les abords de ce gigantesque stade, tout de béton, avec tout un tas d'arbres et de bacs à fleurs qui sont plantés dessus. Mais comme c'est encore tout frais, c'est pas encore végétalement très impressionnant. Et sauf qu'on n'est pas avec un des promoteurs de ces Jeux Olympiques, on est avec au contraire un de ces quelques Japonais qui disent non aux Jeux.
Atsumi Masazumi to imasu.
Je m'appelle Masazumi Atsumi.
Ici,
donc, c'était le quartier où j'ai grandi et quand j'étais petit, j'ai connu le gymnase de Tokyo, donc dans sa forme précédente. J'ai moi-même aussi couru à l'intérieur du stade précédent, le stade olympique maintenant qui a été reconstruit. Et de voir tout ça changer à ce point, c'est extrêmement regrettable.
Vous sortez un énorme tableau. C'est une carte, une photographie aérienne du site olympique.
Ce que cette carte montre, c'est le site avant tout ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a déplacé pour construire le nouveau stade olympique. Mais juste à côté de cet ancien stade, il y avait un parc qui est très connu à Tokyo parce qu'il est souvent utilisé pour des manifestations. Et juste à côté de ce parc, il y a aussi un groupe d'immeubles qui était l'équivalent des HLM en France. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit l'ancien parc en détruisant les immeubles qui étaient à côté. Et donc, ce qu'on voit, c'est justement l'impact qu'a ce type de projet sur la communauté. Et comme vous voyez, c'est vraiment énorme. Les gens qui critiquent le stade, en fait, ils disent que ça ressemble à un gros Big Mac.
Et c'est pas faux en plus, parce qu'avec toutes ces planches extérieures là, qui sont posées, cette forme circulaire et sphérique, et puis avec les petites jardinières qui ressemblent un peu à la salade qui dépasse d'un Big Mac, l'image est assez juste, oui. Et là, pendant ce temps-là, je vois des touristes là, qui viennent passer l'œil entre les barrières pour essayer de voir à l'intérieur à quoi ressemble le chantier. Mais quand on demande aux organisateurs et à l'organisation des Jeux qu'est-ce que vous pensez de ceux qui protestent dont vous faites partie, ce qu'on nous a répondu, c'est que vous étiez ultra minoritaire et pas une grosse menace pour l'organisation des Jeux.
Qu'on soit en minorité, c'est un fait, mais ce n'est pas une question d'être plus nombreux ou moins nombreux. On a présenté la candidature de Tokyo comme une candidature où on n'allait pas justement dépenser de l'argent pour faire ces Jeux. Et puis regardez, on en est là à des milliards et c'est pas pour ça que les gens ont appuyé la candidature. Donc c'est qui va prendre la responsabilité de tout ça? Donc on s'est fait avoir, c'est une grosse arnaque.
Be better together.
Tokyo!
For the planet and the people.
Tokyo!
We'll gather in Tokyo from all over the world.
We are united in our humanity.
bonjour.
Bonjour, bonjour, ça va bien.
Bonjour Nanako Inaba. Présentez-vous déjà pour commencer.
D'abord, je fais la recherche en France sur le droit au logement. Donc je connais les militants de droit au logement à Paris. Et les militants de droit au logement, ils sont venus très souvent au Japon et ils font des échanges avec les militants des mouvements sans-abri à Tokyo.
C'est ça, c'est deux sociétés riches qui produisent de l'exclusion.
Voilà.
Et alors là, je vous retrouve dans un quartier central de Tokyo. Une image qu'on voit souvent sur les cartes postales de Tokyo, c'est Shibuya, c'est ça?
Oui, ouais. Très connu mondialement.
C'est ces énormes trottoirs, voilà, où on voit à chaque feu rouge des milliers de personnes qui vont dans un sens et dans l'autre. Avec, là, on voit les grands panneaux lumineux. Sauf que on est à un jet de pierre, deux rues derrière, et c'est pas du tout la même ambiance. Alors expliquez-nous où on est.
On est dans un parc qui s'appelle Mitake. Et là, en ce moment, il y a des sans-abri. Ils sont à la rue depuis longtemps, ils ont perdu leur travail et après, ils ont perdu leur logement. Et ici, chaque samedi, les associations qui soutiennent des sans-abri ont fait la cuisine collective.
Là, on voit exactement, on voit derrière, là, on est en train d'installer une soupe populaire.
Je m'appelle Misako Ichimura, je suis membre du mouvement contre les Jeux olympiques 2020.
Là, vous, c'est en tant que militante contre l'exclusion au Japon que vous vous êtes retrouvée dans cette coalition contre la tenue de ces Jeux olympiques, c'est bien ça?
Avant la décision, déjà, c'est oui, comité olympique international. Ils sont venus pour regarder la ville de Tokyo. Et déjà, là, on a débarrassé des sans-abri qui habitent dans des coins.
C'est-à-dire qu'on a fait déjà le nettoyage, quoi. Déjà pour la délégation, on avait fait place nette.
Je crois que c'est partout pareil dans le monde, mais on a été étonnés parce que pour la construction de la stade, on a démoli un parc qui était à côté parce que la stade est plus grand que la stade originale. Et on a aussi démoli les logements sociaux. Dedans, il y avait des habitants qui y habitent depuis longtemps et ils sont tous expulsés.
Et
on a démoli une dizaine de bâtiments. Et dedans, y habitaient des vieilles personnes. Donc, ils voulaient rester sur place. Et on a démoli tous les bâtiments. Mais on a aussi construit un bâtiment. Et dedans, on a mis des logements de luxe, mais en même temps, les bureaux de CEO japonais pour bien organiser les Jeux olympiques.
Mais en même temps, je vais vous dire, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et peut-être que quelques personnes vont perdre leur logement, mais après, c'est tout un quartier qui est développé, tout un projet immobilier qui va apporter beaucoup de retombées économiques et financières, peut-être, non? Ça n'a pas l'air de vous convaincre, ce que je vous dis, je vois bien. Et là, pendant qu'on parle, ça y est, la table a été installée, on a allumé une petite lumière, la lumière est tombée. Donc d'un côté, il y a les néons brillants de tous ces quartiers de Shibuya, et de l'autre, il y a cette petite lampe à pétrole sur une table dans ce parc, et les quelques sans-abri qui sont vraiment des gueules cassées un peu, quoi, qui se retrouvent et qui vont bientôt dîner. Un conseil pour nous, parce que nous, on est les prochains sur la liste à Paris. Les Jeux Olympiques en 2024, c'est en France. Alors, est-ce que vous avez des conseils, vous autres, les Japonais?
Tous les habitants de toutes les villes riches doivent dire que non seulement à notre ville, mais partout dans le monde, on n'a pas besoin des Jeux olympiques. Je pense que la solidarité des différentes villes sera nécessaire.
Konnichiwa boku to yukimashou. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, itsumo nanika suteki na koto ga anata o matsu yo. Oh Champs-Élysées, kimi o tsurete asobi ni yuko, minna ga atsumaru ano klabu. Gitao hiite asa made utau, kanoshiku sawaide koi o suru. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées.
les JO 2020 n'auront pas lieu. À Tokyo, les anti-JO ont gagné un an de sursis. Et les organisateurs aussi. Alors vous êtes prévenus, il y aura l'été prochain plusieurs matchs à suivre en marge des compétitions qui se tiendront finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Et n'oubliez pas, la fois d'après, ce sera chez nous. Un grand merci en tout cas à Miguel Quintana pour la traduction, ainsi que Satoshi Ukai, Tristan Lavier et toutes celles et ceux qui nous ont guidés à Tokyo. Retrouvez toutes les infos, les photos et les liens sur franceinter.fr où vous pourrez aussi retrouver les podcasts en version longue de toute la série, du Brésil au Groenland, en passant par l'Australie. Un grand merci à Clément Baudet qui a réalisé cette émission et Ludovic Asselot qui l'a mixée. Et on vous donne tous rendez-vous demain dimanche à 17h pour la suite de notre voyage au Japon et précisément à l'endroit auquel tous ceux qui parlent des JO ne cessent de penser, à 200 km de là, à Fukushima, avec ce bruit lancinant des compteurs GGR et une question, comment 9 ans après vivre avec la radioactivité ? Retour à la normale.